Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Ce matin, dans le bureau de Par Jupiter.
Guillaume, ouais. Merci vraiment d'être là et de remplacer Alex, hein, ça me soulage.
De rien. Du coup, c'est moi le chef, hein, c'est ça?
Oui, alors t'emballe pas, hein, parce que c'est exceptionnel.
Ah bah Charline, ouais. Si je suis exceptionnel, c'est que je suis le meilleur. Hein.
Non, c'est pas ça.
Et puisqu'être le meilleur, c'est être le chef, alors ça veut dire que je suis le chef. Oula. Voilà, c'est un syllogisme. Notre invité Clément Viktorovitch, il te le dirait ça.
Oui, oula, alors du calme.
Mais attends, mais je suis très calme, Charline. D'ailleurs, le calme et la mesure ne sont-elles pas des qualités propres à un chef?
Ouais.
En tout cas, moi, je suis super content qu'on reçoive un rhéteur. Je suis un fou de rhétorique.
Oui, alors j'avais remarqué, merci. Alors justement, je compte sur toi pour prendre en charge l'interview.
Ah bah tu me demandes de venir un vendredi et de prendre en charge l'interview. Si ça, ça veut pas dire que je suis chef.
Non, ça veut dire que j'ai trouvé personne d'autre.
Ah oui, personne qui peut se mesurer à un profil comme Clément Viktorovitch, j'imagine. Oui,
c'est... Non, enfin, c'est que quoi. Juliette, elle était pas dispo.
Oui,
et puis mais... Hippolyte non plus. Alors ouais. Clara non plus, puis mon chien non plus.
Oui,
alors,
donc t'as immédiatement pensé à moi.
Non, mais aujourd'hui j'ai pas le choix. Alors,
ne pas laisser le choix égale assumer, c'est ça d'être chef. Je suis chef.
La Guillaume, voilà. Ça me gonfle là. Hein.
Alors ça, Viktorovitch, il te dirait que c'est une aposiopèse.
Bon, allez, hors de ma vue, va me chercher un café. Allez hop.
Ça, c'est une analepse, je crois.
Va me chercher un café!
Oui, d'accord, chef.
Voilà, c'est bien. Voilà. Oh putain, je suis en forme aujourd'hui. Moi.
Ça, c'est un euphémisme.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la start-up de la radio publique. Arrêtez de m'imiter Guillaume.
Oui, pardon, excusez-moi.
Car voici la devise du jour. L'enfer est pavé de bonnes disruptions. Voici le menu. En ce premier jour de congé scolaire, les trains sont tout perturbés. Les cheminots ont décidé d'exercer leur droit de retrait après un accident. Le gouvernement appelle cela une grève surprise. La presse appelle cela une grève inopinée. Et le président de la SNCF, il dit quoi d'ailleurs?
Y'a quoi vous jouez, bordel de merde?
Sur CNews, LCI, C8 et autres, les polémiques s'enchaînent au rythme des éclats de voix, des clashs à répétition. C'est la course à qui tiendra les propos les plus décomplexés, les plus détendus du neurone. Mais jusqu'où vont-ils aller dans la surenchère?
Vers l'infini et au-delà!
Dans tous les rendez-vous, il y a ceux qui attendent et ceux qui se font attendre. Le retardataire essaye toujours d'avoir raison, et une bonne raison, alors qu'il a tort. C'est passionnant, la rhétorique de l'excuse, surtout dans un métier en particulier en ce moment.
Et toi, tu bossais dans quoi?
À la SNCF. J'avais réussi mon examen parce que j'étais arrivé en retard, ils ont trouvé que j'avais l'esprit de la maison.
Guillaume,
oui.
Vous êtes là aujourd'hui, vendredi, vous avez pris le pouvoir lors d'un putsch survenu ce matin. Vous avez donc aussi choisi les chroniqueurs.
Oui, et aujourd'hui, il y a une toute belle équipe, puisqu'en plus, il n'y a pas Alex et que je suis le chef. À 17h20, celle qui est un mélange de jukebox et d'anxiolytique, la très punk Mélanie Bauer. Bonjour Mélanie.
Bonjour, et du punk, du rocker, il va y en avoir. Aujourd'hui, on parle de Mike Patton et de Jean-Claude Vanier. Bon, un peu moins rocker, Vanier.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles. À 17h30, celle qui est un mélange de Jacques Chancel et de Secret Bancaire, la très suisse Christine Gonzalez.
Bonjour, aujourd'hui, je règle mes comptes, je remets le cimetière au milieu du village.
Ça, c'est bien. Ouais, ça nous plaît. 17h40, celui qui est un mélange de David Lynch et de Coussin Péter, le très déroutant Thomas Croisière. Bonjour Thomas.
Bonjour Guillaume. Mais moi, je vais vous parler des films préférés de mes enfants.
Ah, ça c'est bien, pas mal, et ils sont là dans le studio aujourd'hui. Et enfin, pour terminer la semaine, celui qui est un mélange de Pavarotti et de bodybuilding, le très envoûtant chanteur à succès Frédéric Fromet.
Et voici celui qui va transformer l'open space en agora. Vous êtes
Clément Viktorovitch.
Il est là.
Viktorovitch.
Elle est là.
Charline Vanhoenacker. Guillaume Meurice.
Jupiter.
Avec Guillaume, on fait les jingles aussi le vendredi. Chers auditeurs, une émission un peu spéciale donc, pour justement accueillir Clément Viktorovitch. Alors, vous êtes enseignant en rhétorique à Sciences Po, vous êtes docteur en sciences politiques, et on vous connaît aussi aujourd'hui comme chroniqueur dans l'émission Clic de Mouloud Achour, du lundi au vendredi à 19h55 sur Canal+. Alors, selon Aristote, la rhétorique, c'est l'art de bien dire et persuader. C'est vraiment un sujet, je pense, pour Guillaume et pour que vous meniez l'interview de Clément Viktorovitch.
Et ben, première question, est-ce qu'on peut résumer qu'est-ce que la rhétorique exactement et comment ça, vous l'enseignez? Comment on peut enseigner la rhétorique?
Eh bien, la rhétorique, c'est l'art de bien dire et de persuader, comme disait Aristote.
Ce bon vieux Aristote.
Mais c'est vraiment ça, c'est l'art de rendre sa parole persuasive, l'art de rendre sa parole convaincante, l'art de présenter sa pensée de manière à convaincre les interlocuteurs auxquels on s'adresse. Alors, comment on l'enseigne? Eh bien, c'est un peu particulier parce que il s'agit d'enseigner ce que nous faisons tous. Tout le monde a de la rhétorique l'image que ce serait une discipline particulièrement réservée aux juristes, aux avocats, aux hommes politiques, à ceux qui font du marketing, aux publicitaires, mais absolument pas du tout. Quand vous cherchez à convaincre votre compagne ou votre compagnon de manger un poulet rôti plutôt qu'une salade végane le soir, par exemple, c'est un travail rhétorique. Il n'y a pas plus rhétorique comme situation que de devoir convaincre un groupe d'amis d'une destination de vacances, par exemple. Donc, la rhétorique, c'est ce que tout le monde fait.
On est les Monsieur Jourdain de la rhétorique.
Exactement.
On fait la rhétorique tout le temps.
Donc, en fait, enseigner à la rhétorique, c'est pas apprendre des choses nouvelles, c'est simplement passer dans le conscient des choses qu'on fait inconsciemment pour essayer de le faire un peu mieux, un peu plus efficacement. Au fond, c'est trouver les armes pour argumenter sa pensée et faire porter sa parole, faire porter sa voix. C'est aussi, à l'inverse, trouver les armes pour décrypter les argumentations qu'on nous soumet. Parce que le problème de la rhétorique, c'est pas la rhétorique en soi. Elle n'a rien de bénéfique ou de maléfique. Le problème de la rhétorique, c'est qu'il y en a quelques-uns qui en disposent et d'autres qui la subissent aujourd'hui. Donc l'enjeu, c'est de l'enseigner au plus grand nombre possible.
C'est un outil démocratique ? C'est-à-dire que c'est un outil, la démocratie, la caractéristique, c'est qu'on a la parole en démocratie, donc il faut aussi que le citoyen s'arme de rhétorique, c'est
Mais
ça que vous dites ?
Exactement. Pour moi, la rhétorique, c'est l'une des disciplines les plus démocratiques qui soit. En fait, c'est paradoxal. La rhétorique, c'est le grand impensé de notre système politique. La démocratie, au sens le plus étroit, le plus restreint du terme, c'est le régime dans lequel le peuple vote à intervalles réguliers pour élire ses dirigeants. Bon, il est donc récepteur de discours. Ça veut dire que le minimum qu'on peut enseigner aux citoyens, c'est d'être capable de décrypter les argumentations, particulièrement quand elles sont mensongères, quand elles sont sophistiques, c'est-à-dire trompeuses. Bon, et là, la démocratie, si on veut en donner une définition un peu plus optimiste, c'est le régime dans lequel le peuple peut s'autogouverner, peut décider ensemble de ce qu'il veut faire de son destin commun. Et comment est-ce qu'on construit ça ? Ben, par de la délibération, par la confrontation des arguments. Le problème aujourd'hui, c'est que cette confrontation des arguments, certains y sont extrêmement virtuoses parce qu'ils y ont été formés dans des grandes écoles, par exemple Sciences Po ou J'officie, et puis d'autres en disposent un peu moins. Donc l'enjeu démocratique, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse enseigner la rhétorique. C'est pour ça que l'enseigner à Sciences Po, c'est bien, c'est nécessaire, et puis il faut le faire ailleurs. Moi, par exemple, j'ai fondé avec quelques amis le concours d'éloquence des lycéens de Montreuil.
Alors, quelle est la différence justement entre l'éloquence et la rhétorique ?
Alors, une différence, une manière de présenter la différence, c'est de dire que l'éloquence, c'est simplement l'art de bien parler, l'art de bien s'exprimer, l'art de captiver son auditoire. La rhétorique, c'est l'art de convaincre. En fait, la rhétorique, elle n'est pas nécessairement orale. Quand François Mitterrand envoie une lettre à tous les Français en 88 pour sa réélection, c'est un travail rhétorique, il n'est pas écrit. Quand Apple fait de magnifiques images de l'iPhone 10 et qu'on est tous subjugués, c'est de la rhétorique de l'image. Si on tire un peu le trait, une lettre d'embauche ou une conversation Tinder, c'est de la rhétorique. Donc la rhétorique, c'est l'art de convaincre. Et c'est pour ça qu'à Montreuil, le maire de Montreuil voulait fonder un concours d'éloquence. Il est venu me voir, je lui ai dit c'est une formidable idée, je suis enchanté, à une condition, c'est qu'on fasse pas juste un concours où les gens parlent bien, c'est qu'on fasse des ateliers dans tous les lycées de la ville pendant plusieurs mois, où on forme les lycéens à argumenter leurs pensées et à décrypter les discours. Il a dit banco, c'est ce qu'on fait en ce moment.
Et comment ça vous est venu, ça, vous personnellement, cette envie de décrypter les discours ? Est-ce que à l'école, vous étiez déjà un peu chiant avec les professeurs en disant oh là, vous avez fait une métaphore, vous avez fait une métonymie ?
Alors, non, parce que c'est un savoir qu'on acquiert progressivement. Ouais. Par contre, pénible, oui, j'ai toujours été un peu pénible. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Non, mais c'est en l'occurrence, c'est une passion ancienne. Moi, j'ai toujours aimé la parole, j'ai toujours aimé l'argumentation, j'ai toujours aimé être sur scène, mais moins pour jouer la comédie, plus pour défendre des idées. En fait, ça a été un fil rouge depuis mon enfance, et je m'en suis rendu compte assez tardivement. Et l'histoire étonnante, c'est que moi j'ai fait un doctorat de sciences politiques. Alors quand on fait un doctorat, moi j'ai travaillé sur l'élaboration de la loi au Parlement. Donc moi les questions qui m'intéressaient, c'était des questions de démocratie, des questions parlementaires. Bon, et puis c'est en parlant avec un ami qui lui est plutôt théoricien du politique, qui me dit, mais j'étais au milieu de ma thèse, il me dit tiens mais c'est marrant, ce que tu fais, ça me fait penser un peu à la rhétorique. Et je lui ai dit, tiens, c'est drôle, j'ai été voir. Effectivement, je me suis rendu compte que j'étais le plus Monsieur Jourdain des Monsieur Jourdain. Je faisais de l'analyse de la rhétorique sans le savoir.
C'est de l'inné et de l'acquis, donc.
Un petit peu.
Alors, en Belgique, ce que vous appelez la terminale, ça s'appelle la rhéto, parce que la rhétorique, originellement, et donc les élèves de terminale, chez nous en Belgique, on les appelle les rhétoriciens. C'est-à-dire que à l'origine, sans doute, y avait-il enseignement de la rhétorique, puis on a oublié que ça venait de là, parce que souvent, les rhétoriciens écrivent mal rhéto, ils mettent le H au mauvais endroit, donc c'est vraiment qu'ils ont oublié d'où ça venait. La rhétorique, elle devrait déjà s'enseigner, ou du moins quelques notions, au lycée, et pourquoi pas en terminale, ce serait l'année idéale?
Moi, c'est ce que je pense. Moi, je pense même qu'on pourrait commencer dès la troisième, dès le collège, en réalité, à enseigner l'argumentation, le discours oral et le décryptage des discours. En ce moment, en France, on a ce débat autour du grand oral du bac. On ne sait pas exactement à quoi ça va ressembler. Ça, c'est intéressant parce que ça peut être la meilleure des idées comme la pire. C'est la meilleure des idées si véritablement on crée un enseignement ambitieux de l'argumentation et de la prise de parole dans nos lycées. Ce serait merveilleux. Et c'est la pire des idées si on le fait pas, parce que le langage, c'est la première des inégalités. C'est très facile de très bien parler et de très bien argumenter quand vos parents sont chercheurs, profs ou avocats. C'est beaucoup plus dur quand ils sont ouvriers, quand ils n'ont pas eux-mêmes ces armes. Donc, ce grand oral, ça peut être un formidable outil de partage de la rhétorique, de l'argumentation et donc du pouvoir parmi les citoyens. Ou ça peut être, ce qui serait terrible, une manière de ratifier les inégalités de naissance.
Clément Viktorovitch est avec nous jusqu'à 18h.
Ah bah oui, mais aujourd'hui, attention, c'est, hein. C'est France Culture un peu aujourd'hui.
Carrément, non, mais c'est passionnant.
Non, je suis là. Allez, ça va redescendre.
Thomas Croisière. Allez, l'élocution selon Brigitte Fontaine.
Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté. Ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne. Je suis passé à côté de l'amour. Il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée. Je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis montée dans une dèche fourvoyée où il y avait un chien qui puait.
Yeah. Brigitte Fontaine.
Ah oui, pardon. Non, mais ça va.
17h22 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Mais quel bon goût vous avez. C'est fou quand même. On était fait pour s'entendre, vous et nous. Guillaume Meurice, oui, co-présente cette émission avec moi aujourd'hui. Et qui est autour de la table pour entourer notre invité, le rhéteur, Clément Viktorovitch.
Et bien, par ordre d'apparition, il y aura la David Guetta punk Mélanie Bauer. Il y aura la Christine Nocrente suisse, Christine Gonzalez. Et le Tom Cruise français, Thomas Croisière.
Et l'info, elle est à tout le monde. Allez hop.
J'ai toujours mes petites expressions, j'ai le droit. Donc voilà, ça veut dire que le singe peut vous... peut vous gratter la tête et donc la difficulté est là.
Le journal, presque 17h17.
Oui. Il peut pas nous aider, le vieux macaque. Au lieu de nous perdre ça la malaise. Ouais.
Et on commence avec les titres.
On parlera...
Du voile. On parlera du voile.
Non, Guillaume, ne recommencez pas avec
ça
quand même.
C'est un vieux réflexe, excusez-moi.
Oui, non, on parlera de Patrick Balkany.
Ok, accrochez-vous à votre portefeuille.
On parlera également de Patrick Bruel.
Accrochez-vous à votre slip.
On parlera également de Hitler.
Et accrochez-vous à votre Yann Moix. Et on commence avec la politique.
Oui, enfin, politique, ouais, c'est vite dit. Oui. On commence avec François Hollande, oui, donc, et qui va publier un livre pour enfants sur la République.
Et ça va s'appeler « Un délégué de classe ne devrait pas dire ça ».
Justice, à présent, avec Patrick Balkany, qui a refusé de sortir de prison pour aller à son jugement.
Mais oui, parce qu'il est bien, Patoche. Il est nourri, logé, blanchi aux frais du contribuable. Voilà, il a sans doute pas vu la différence avec avant. En fait.
Politique toujours. Vif débat à l'Assemblée nationale avec une très belle prise de parole du député centriste de Courson.
Si j'ai bien compris l'article 5, le coco, il est gelé. Il est gelé, le coco. Il n'évolue pas d'année en année. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que le coco est gelé? Parce que c'est la question que pose implicitement l'amendement Pupponi. Le coco, il est flexible, réajusté chaque année, ou il est gelé?
Et voilà. Eh ben, on est bien dans la merde avec ça. Le coco est-il gelé ou flexible? Alors, c'est la question. Alors, il parle pas des communistes, hein, qui sont assez flexibles. On le sait, par exemple, Robert Rue, il est passé de Lénine à Macron. Donc, on peut parler d'une belle flexibilité. Non, il parlait d'un coefficient correcteur.
Le fameux coco.
Oui, que Charline connaît sous le nom de Malibu Coco.
SNCF, un mouvement social inopiné, perturbe le trafic des TER et des RER.
Ce mouvement fait suite à un accident inopiné et aux réformes d'un président élu de façon inopinée.
Président surprise, on peut dire.
Oui.
Selon une étude de la Harvard Medical School, trop utiliser son cerveau réduirait l'espérance de vie.
Selon cette même étude, Christophe Castaner vivra jusqu'à 167 ans.
Cerveau vide encore. 40 personnalités, parmi lesquelles Pierre Arditi, Charles Berling, Denis Podalydès ou Jean Reno, ont signé une pétition pour s'opposer à l'interdiction de la corrida au moins de 18 ans.
Et oui, rappelons que tant que les mineurs ne sont pas accompagnés à la corrida par une femme voilée, il n'y a aucun problème, bien évidemment.
Cerveau vide toujours, les éditions Fayard ont pris la décision de rééditer Mein Kampf.
Oh, la bonne idée! Pascal Praud est sur le coup pour inviter l'auteur et faire une émission spéciale.
People, porté par un fan, Lady Gaga chute en plein concert à Las Vegas.
Et il faut toujours se méfier des fans. Ah, hein. Oui. C'est pas moi qui le dis, c'est la famille de John Lennon.
Et alors on termine avec l'agenda du week-end, car ce samedi auront lieu les championnats du monde de flatulence, hein, de caisse, de paix.
De paix, ouais,
au palais des congrès de Liège en Belgique.
Brasser de l'air avec quelque chose de nauséabond, autant dire que Jean-Michel Blanquer a toutes ses chances de ramener la coupe à la maison.
Ce samedi également, Europe 1 fête le 60e anniversaire de la première diffusion de l'émission Salut les copains.
Oui, et ils fêtent également le 5e anniversaire de la première diffusion de leur émission Au revoir les auditeurs.
Et enfin, samedi...
Pas gentil.
Ce samedi encore aura lieu la 48e édition du gala de natation sans maillot, eh oui, tout nu à poil.
L'occasion idéale pour Patrick Bruel de sortir un peu.
Merci Guillaume, 17h26 sur France Inter. Nous sommes en compagnie de Clément Viktorovitch, enseignant en rhétorique à Sciences Po, que vous pouvez voir dans Clic, l'émission de Mouloud Achour le soir sur Canal+. Et on va aborder avec vous ce premier sujet. Surprise! C'est la grève!
C'est la grève surprise!
Oui, c'est la grève des cheminots! Oh là là. Oh là là, dites donc! Alors ça, c'est le lexique du gouvernement. D'accord. La presse parle de grève inopinée. Oui, c'est vendredi, on peut...
On était contents.
Et on était un peu contents. Alors, selon la CGT, il s'agit plutôt d'un droit de retrait. Ça existe dans le Code du travail. Enfin, dans ce qui reste du Code du travail. Un droit qu'ont fait valoir les cheminots après un accident survenu mercredi, alors que le conducteur était seul, car la SNCF a mis en place une politique de suppression du contrôleur. Si la grève surprise, ça existait, ça se saurait, parce que ça ressemblerait sans doute à ça.
C'est la merguez, merguez partie, tant bien l'adresse,
c'est les musclés, parce que je rappelle que c'est Guillaume Meurice, le rédacteur en chef aujourd'hui, qui a donc choisi les sons. Voilà, voilà. Je vous laisse là-dessus avec Clément Viktorovitch. Voilà, Clément Viktorovitch, donc on parle de grève surprise dans la bouche du gouvernement. On parle de grève inopinée, c'est les termes qui reviennent dans la presse, etc. Et donc on a bien compris que la CGT dit droit de retrait, c'est précis, c'est dans le Code du travail. Évidemment, tout ça, il y a des interprétations aussi, mais c'est typiquement un sujet de société où les différents protagonistes jouent sur les mots. Comment vous voyez les choses, vous ?
Mais la manière de nommer les choses, c'est un enjeu politique crucial. Gagner la bataille des mots, c'est déjà presque avoir gagné la bataille des idées. Et là, ici, l'enjeu, il est très clair. C'est-à-dire que si vous dites que le mouvement social qui a lieu aujourd'hui, c'est une grève surprise, donc une grève qui n'a pas donné lieu à un préavis, ça pose un vrai problème et de légalité et de légitimité. Si vous dites que c'est un droit de retrait, comme son nom l'indique, c'est un droit, ça ne pose aucun problème. Et au contraire, ça renvoie la faute sur l'employeur qui doit assurer la sécurité de ses employés. Donc là, la bataille idéologique qui se joue dans cette grève, elle se joue sur le terrain des mots. Et il y a un bel exemple qui était passionnant. C'était en 2018, au moment de la réforme de la SNCF. J'avais écouté avec attention le JT de 20h sur TF1 et sur France 2 le soir du premier jour de grève. Et sur France 2, vous entendiez à la fois dans la bouche de la présentatrice mais de tous les reporters, le mot « usager » de la SNCF. Alors on parlait des malheurs, des misères des usagers. Et sur TF1, on parlait là aussi des malheurs et des misères des clients de la SNCF. Et là aussi, il y a un enjeu lexical qui est crucial, parce que si vous êtes client de la SNCF, vous payez pour un service, et vous pouvez exiger qu'on vous le rende, et si on vous le rend pas, ce sont les autres, ceux qui devraient vous l'offrir, qui sont en faute. Alors que, si vous êtes un usager, il est usager du service public, et ceux qui se mettent en grève, ils se mettent en grève pour défendre le service public, et donc pour défendre les usagers. Donc là, vous voyez que, derrière un même traitement, qui était que, oh, quand même, la grève, c'est pas cool pour ceux qui prennent le train, en fait, dans la manière de nommer les personnes qui prennent le train, il y avait déjà des enjeux politiques cruciaux. Nommer les choses, c'est déjà un peu gagner la bataille des idées.
Alors justement, dans la grève et on peut dire la rhétorique de la grève, elle est toujours marquée par l'exagération. Prise d'otage, une minorité qui bloque une majorité, etc. C'est un terreau propice à est-ce qu'on peut dire une rhétorique de l'exagération ? Pour persuader.
Bah, une rhétorique de l'hyperbole ou de la métaphore. C'est-à-dire que là, la prise d'otage, tout le monde voit bien que c'est une métaphore. C'est-à-dire que tout le monde voit bien que personne n'est pris en otage. Et en fait, c'est très intéressant de voir que cette métaphore qui dramatise les grèves. C'est-à-dire que vous prenez le train, il n'y a pas de train. Bon, ça peut vous ennuyer un petit peu, ça peut vous ennuyer beaucoup, ça peut même vous mettre très sérieusement dans l'embarras, mais rien à voir avec les dangers de vie et de mort qui pèsent sur vous lors d'une prise d'otage. Donc on voit bien ce que cette métaphore avait de caractère à dramatiser la situation et donc à faire peser tout le poids et toute la responsabilité sur les grévistes. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette métaphore, elle a explosé. On n'a plus le droit de l'employer aujourd'hui, je pense que c'est heureux, depuis la prise d'otage du Bataclan, parce que là, tout le monde a bien vu ce que cette métaphore avait d'obscène, parce qu'elle est obscène, cette métaphore. Donc on ne l'emploie plus, c'est heureux.
Clément Viktorovitch avec nous, c'est passionnant jusqu'à 18h. On parle un petit peu de musique, n'est-ce pas? Enfin, si Guillaume est d'accord, parce qu'il est rédacteur en chef.
Alors, musique et Mélanie Bauer, ouais. Ça va ensemble? Alors, allons-y. Allons-y, Mélanie.
Alors, j'avais envie aujourd'hui de revenir sur un très vieux disque sorti il y a un mois. En journalisme musical, un mois, c'est très, très, très long. Corpse Flower de Mike Patton et Jean-Claude Vanier, la rencontre entre la France et l'Amérique, le rock et la chanson, le baby boomer et la génération X. Bref, un disque de vieux. Alors, Mike Patton, c'est Faith No More, le rock musclé des années 90 avec des tubes plus ou moins dépressifs. Comme par exemple cette chanson Easy que vous avez forcément entendue à la radio si vous êtes né au siècle dernier. Ici, on est en 1992, le chanteur Mike Patton a 24 ans, il met des shorts à mi-cuisse, porte fièrement le bouc et il est la star de ce qu'on appelait à l'époque la fusion, un mélange de heavy metal, de funk et de ballades romantiques avec d'interminables solos de guitare comme celui-ci.
Non, c'est bien, les solos de guitare, on aime bien.
Et non, c'est moche.
Oh, oh, c'est pas mal, c'est pas mal.
Mais pourquoi vous le diffusez alors?
Le groupe Split en 1998, juste avant le nouveau siècle, qui enterre la fusion, le rock et le book, pour explorer de nouveaux territoires plus électroniques, hip-hop ou hipster. De l'autre côté de cette collaboration multigénérationnelle, il y a Jean-Claude Vanier, star des arrangements à la française, avec notamment la fameuse ballade de Mélodie Nelson, l'album culte écrit avec Gainsbourg. Vanier, c'est aussi Johnny, Dalida, Polnareff et ma préférée, Brigitte Fontaine, pour laquelle il compose Il pleut, la plus belle chanson à mon goût de toutes les chansons du monde.
Il pleut, c'est tout ce qu'il sait faire. Je bouge, c'est tout ce que je sais faire. La nuit descend, c'est tout ce qu'elle sait faire.
Bon, Mike Patton et Jean-Claude Vanier se rencontrent lors d'une rétrospective Gainsbourg aux États-Unis et joie du nouveau siècle et de la technologie. Il débute entre la France et l'Amérique un ping-pong de création. Vanier envoie des mélodies, Patton vocalise, ajoute des basses et les chansons prennent forme. Le langage universel de la musique, ça vaudrait le coup de l'analyser, cette mélodie du discours.
My motto, simply do what the trigger says. Are you a freak or a gangster? Well, have a look at my billboard.
Alors bien sûr, il plane sur ses chansons des fantômes de Bonnie and Clyde, de Gainsbourg à l'humour noir, mais aussi d'Oscar Wilde. Ce Corpse Flower, c'est la désillusion de la génération X portée par un romantisme de corde à la française. Le compliqué pour ne pas faire simple, interprété par des musiciens extraordinaires d'ici et de l'Amérique pour des morceaux qui ne cherchent pas à plaire. C'est viril comme du Cash, c'est sombre comme du Cave, c'est patient comme du Waits, avec cette humilité que l'on ne connaît que chez les grands artistes, Mike Patton et Jean-Claude Vanier, parce qu'au fond, les chansons d'amour sont toujours les mêmes.
Chansons d'amour, those good old tunes. Chanson d'amour, always the same. Under the migraine days. Chanson d'amour.
Struck a blow to my heart. Mike Patton, Jean-Claude Vanier, Corpse Flower, c'est l'album et c'était Chanson d'amour.
Merci Mélanie Bauer qui a parlé de Mélodie du discours, Clément Viktorovitch.
Mais oui, mais alors il se trouve que j'ai fait ma chronique de mercredi dernier dans Clic sur la mélodie du discours en regardant justement comment est-ce que c'est une des dimensions hein, de la rhétorique, ce qu'on appelle la prosodie, la musique de la voix. Et j'ai essayé d'analyser comment est-ce que cette musique de la voix peut créer des effets sur les auditeurs. Voilà, ça se retrouve sur YouTube et sur Malcanal.
Il est fort,
il est balèze.
Il est enseignant en rhétorique à Sciences Po.
Besoin d'argent.
Et docteur en sciences politiques. Mais oui, c'est un chercheur, Clément Viktorovitch avec nous. Et évidemment, c'est vendredi.
Bah, bien sûr.
Elle a pris le TGV, il roulait ce matin.
Il roulait bien.
En provenance de Genève.
Lausanne, oui, tout à fait.
Oui, c'est Christine Gonzalez, Cricri comme on l'appelle.
Oui, alors j'aimerais vous inviter à passer quelques secondes dans ma tête, histoire que vous compreniez très précisément la réalité de mon quotidien. Attendez, j'approche mon cerveau du micro.
Nous reparlerons tout à l'heure de ce qu'est une information.
Je n'arrive pas très encore ordinaire. À être...
Pour l'instant, disons, si vous voulez que l'ensemble de ces facteurs est contrôlé, en fond, personne tout dans son sachet libre,
se trouve à lire n'importe quoi.
Alors, vous avez compris que je ne suis pas tout à fait seule. C'est ça, une vraie charge mentale. Chaque semaine, je fais le tri, je choisis scrupuleusement les morts avec qui interagir, j'établis des connexions fortes, je fais du networking dans l'au-delà. C'est un vrai travail. Et j'aimerais, Charline et Guillaume, que vous le reconnaissiez, déjà.
Très bien.
Alors, question. Pourquoi dans Par Jupiter, alors que je suis même pas là, vous interviewez des morts? J'ai halluciné.
Quoi?
Non, mais hier, 17h, j'allume la radio pour écouter mon émission préférée. Et qu'est-ce qui se passe?
Que vous êtes là en vrai. Vous êtes.
Marguerite Duras.
Oh, oui, c'est elle. Bienvenue, Marguerite Duras. Marguerite, c'est l'écrivain en devenir. Ça n'est pas encore Duras.
Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi de le dire, ça.
Et est-ce que vous avez été surpris par l'adaptation qui a été faite par Emmanuel Finkiel?
Oui. Pas très bon. Pas très bon.
Vous, c'est une notion qui vous parle, l'attractivité de la France?
Maintenant, tout de suite, là? Oh non.
Alors que vous pensez que c'est impossible?
Oui, j'aime bien Bob Dylan.
Merci, c'était un plaisir de parler avec vous de la douleur, ce qui n'est pas commun.
Oh, sans aucun doute, oui.
Ah, ça m'a fait mal au cœur, ça m'a fait tellement mal au cœur. J'ai pleuré, je me suis roulée en boule dans mon lit en forme de cercueil et j'ai hyper mal dormi. Ce matin, toute cernée que je suis, je me dis bon, allez Christine, relativise, aujourd'hui tout sera différent. J'allume la radio, c'est la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Et qui est invité? Un ministre mort. Oui, un ministre de l'au-delà, le ministre de l'écologie, Jacques-Yves Cousteau.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi, rationnellement, ce n'est pas la mobilisation générale pour le climat?
Pas du tout. Pourquoi est-ce qu'on est tellement paralysé?
C'est impossible à expliquer.
Ça s'apparente à un brouillard épais.
Est-ce que vous restez au gouvernement de ce fait-là?
Non.
Vous êtes sérieux,
là? Ah oui.
Je tiens à préciser que vous ne l'aviez absolument pas dit avant de rentrer dans ce studio.
On le découvre.
Bien au contraire.
Il n'y a pas de doute.
Vous avez pris quand cette décision?
La visibilité est de l'ordre de 30 mètres. 35 mètres.
Donc là, ils vont la prendre en direct.
Oui.
Christine est en ligne au standard 01 45 24 7000. Soyez la bienvenue sur France Inter, Christine.
Bonjour. J'aimerais vous dire deux choses. D'abord que c'est pas une très bonne idée d'interviewer les morts. Enfin, il y en a d'autres qui font vraiment beaucoup mieux sur France Inter. Et deuxièmement, cette démission du commandant Cousteau en direct, franchement, ça sonnait pas sincère, ça avait l'air hyper verrouillé.
Le truc n'est pas verrouillé, c'était un moment de grâce.
Voilà.
C'était un moment unique.
Bon, vous vous en foutez de ce que je dis, quoi.
Merci Christine pour cet appel et cette intervention. Il est 8h43 et vous écoutez France Inter.
Et pourquoi? Pourquoi est-ce que je m'obstine à 9h10 encore allumer la radio et c'est l'heure de Boomerang? Et qui est l'invité? Romy Schneider.
Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Ça vous est arrivé à vous de vous sentir relative?
Non.
Alors si le mot c'est cette substance malléable que l'on travaille, quel est son pouvoir? Quelle est sa puissance? Qu'est-ce qui fait la puissance d'un mot?
Pardon, j'étais ailleurs.
Comment on fait pour reprendre possession de son corps, justement?
Ça, je ne sais pas.
Ça veut dire que l'intime doit se taire, en fin de compte?
Oui, je suis d'accord avec vous.
Dans quelle mesure est-ce qu'il est possible de se remettre du silence?
Mais j'ai oublié votre question.
Alors, c'est un texte sur le temps que vous avez choisi de nous écrire ce matin et j'aimerais que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien.
Non, ça m'emmerde.
Merci infiniment d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour ce temps profond sur France Inter.
Voilà. Alors, le message, il est hyper clair. Si tout le monde à France Inter se met à interviewer des morts, je ne sers plus à rien. Non, mais je sens bien, je ne sers plus à rien. J'ai donc décidé de postuler à CNews, là où l'on invite des vivants en état de mort cérébrale.
Christine Gonzalez, merci Christine. Merci pour ce temps profond, comme on dit quand il y a un moment de grâce à la radio, c'était si j'ai bien
beau,
compris. En tout cas, on vous conseille, ça me fait penser de vous conseiller un compte Twitter qui s'appelle Question Trapenard.
Oui.
Et qui est vraiment très joli, qui est vraiment en direct. C'est quelqu'un qui tweete les questions d'Augustin Trapenard et il y en a qui sont extraordinaires.
C'est
génial.
C'est
Augustin qu'on embrasse très fort et que vous retrouvez bien sûr lundi à 9h10 avec des vivants. Merci Christine Gonzalez, vous restez avec nous ainsi que Clément Viktorovitch, notre invité, et Guillaume a choisi bien sûr le deuxième sujet.
Tout à fait, puisqu'on vit une époque formidable où un mec condamné pour incitation à la haine a son rond de serviette sur une chaîne nationale, où on peut comparer un voile à un uniforme SS dans le plus grand des calmes, où n'importe quelle moisissure de l'esprit passe pour une conviction profonde, où n'importe quelle névrose passe pour une opinion politique. Alors comment faire quand on est face à un Zemmour ou à un Pascal Praud et qu'on a juste envie de leur dire gentiment...
Insupportable enfin votre attitude. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Moi je peux plus animer une émission de télévision.
Voilà, vous avez bien reconnu évidemment Patrick Sébastien et Pascal Praud, les œuvres de notre fabuleux réalisateur. Alors comment vous, Clément Viktorovitch, qui est un homme de médias, vous analysez cette période? Est-ce qu'on a définitivement délaissé le terrain des arguments et c'est à celui qui dit la plus grosse saloperie?
Bah moi déjà j'ai travaillé avec Pascal Praud pendant un an. Donc
c'est votre père.
Pas tout seul, je veux dire.
Mais pas exempt de tout reproche.
Je ne sais pas si j'irai jusque à dire que c'est mon père et je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire qu'il faut parler de reproche. Moi ce qui me frappe c'est que il y a un concept en sciences politiques qui est crucial qui est le concept de fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, c'est un mot compliqué pour désigner un truc assez simple, c'est l'idée que dans l'espace public, dans les médias par exemple, il y a un spectre du dissible en politique. Il y a un spectre de ce qu'on a le droit de dire sans être disqualifié. Bon, ce qui est intéressant, c'est que cette fenêtre d'Overton, elle ne s'élargit pas ou elle s'élargit peu, elle a tendance à se déplacer. Quel est le problème? C'est que quand vous avez des éditorialistes, des polémistes, des penseurs, des écrivains, des essayistes, des journalistes ou des hommes politiques, ou des femmes politiques d'ailleurs, qui prennent des positions de plus en plus à droite, de plus en plus radicales, de plus en plus conservatrices, de plus en plus outrancières sur certains sujets, eh bien, par comparaison, ça fait paraître d'autres opinions qui, hier, semblaient radicales, parfaitement modérées. Et je crois que la vraie problématique qu'on est en train de vivre, elle va au-delà d'Éric Zemmour ou de Pascal Praud, elle est plus, pour prendre les deux personnes que vous avez citées, elle est plus large que cela. C'est-à-dire que moi, hier, par exemple, dans Clic, j'ai analysé le discours de Nadine Morano. Et pour être
super.
J'ai passé une bonne journée.
Il y a des primes de pénibilité.
Je vais les demander. Mais ce qui est fascinant, c'est que on a tous été marqués à la rédaction par cette journée et par ce discours. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas à une telle radicalité. On ne s'attendait pas à un tel discours. Et ça a été une des chroniques les plus difficiles à écrire parce que elle dit littéralement des horreurs.
Mais est-ce que c'est utile d'y opposer des arguments? Parce que finalement, qu'est-ce que c'est un argument face à quelqu'un qui va crier fort?
Oui, comme un enfant qui ferait caca prout, il n'y a pas d'argument finalement.
C'est ça qui est terrible. C'est là où j'ai envie de dire que quoi qu'il arrive, on perd. C'est que moi je crois qu'il ne faut jamais délaisser le terrain des arguments. Je crois qu'il ne faut jamais délaisser le terrain des arguments. C'est ce que la gauche a prétendu faire avec le Front National pendant des années et des années, du temps où il s'appelait encore le Front National, où la seule chose qu'on avait à leur opposer, c'était des invectives, en disant « vous êtes raciste, vous êtes fasciste, nous ne parlons pas avec vous, nous ne voulons même pas déconstruire votre discours ». Ben, résultat, le Front National n'a eu de cesse de monter, et c'est normal, parce que à un moment donné, quand on a des adversaires politiques, soit on est capable de les vaincre sur le terrain des arguments,
Soit il faut admettre qu'ils sont plus forts que nous.
Mais c'est eux qui vont pas sur ce terrain. C'est eux souvent qui vont pas sur le terrain des arguments et qui sont sur le terrain de l'invective. Que répondre à Nadine Morano dans sa diatribe d'hier matin? Enfin,
c'est pour compliqué. Ça, quoi. C'est pour ça que ça devrait être d'autant plus facile de leur répondre. Donc moi, c'est ce que dans Clic notamment, j'essaye de faire. Alors pas uniquement avec les discours en l'occurrence d'extrême droite ou de droite extrême, mais avec le discours politique en général, parce que je pense que c'est important de donner les clés. C'est important de lever le rideau et de montrer ce qu'il y a derrière. Le vrai problème, et je finis là-dessus, c'est que au même moment où Nadine Morano parlait, il y avait sur une autre antenne Marine Le Pen. J'ai écouté les deux discours. Eh bien, je peux vous dire qu'à côté de Nadine Morano, le discours de Marine Le Pen, il semble modéré. Mmh. Et ce qui est grave, c'est ça.
Mmh. Alors, est-ce qu'il faut boycotter ou pas CNews? Parce qu'en allant sur CNews et en répondant à ces gens-là, etc., ou sur d'autres chaînes, hein, parce que LCI, finalement, parfois, c'est pas beaucoup mieux, on alimente leur machine. Est-ce qu'il faudrait pas les laisser entre eux? qu'est-ce qu'il faut faire? On se pose la question de participer à ces débats ou ne pas y participer, parce que parfois, c'est même souvent un piège. On le voit chez Pascal Pro, une Claire Nouvian, où ils arrivent dans un piège, en fait.
Bah, écoutez, moi, ça, je sais pas. C'est, encore une fois, moi, CNews, c'est une chaîne sur laquelle j'ai travaillé. Je connais bien la rédaction, j'ai beaucoup de respect pour tous les journalistes qui y travaillent, j'ai même beaucoup d'amitié pour les journalistes qui y travaillent.
Il y a des journalistes à CNews?
Mais il y en a.
On va vérifier cette information.
Et je suis pas sûr que tout le monde se soit ravi de l'arrivée de CNews. La seule chose à dire, c'est que ceux qui ont une responsabilité, c'est les téléspectateurs. Il y a la phrase de Coluche, rendez-vous compte, il suffirait que les gens arrêtent de l'acheter pour que ça arrête de se vendre. Rendez-vous compte, il suffirait que les gens arrêtent de regarder CNews pour qu'il arrête d'être programmé.
Ouais, moi j'ai pas la télé.
Ah bah très bien, ça règle le problème. Thomas Croisière, vous êtes avec nous, alors ce premier jour de congé scolaire.
Absolument.
Eh oui, il y a un lien.
Les vacances de Monsieur Croisière est le titre du programme de mes 15 prochains jours. Juste après Jupiter, direction l'A10 avec mes deux couillons de 9 et 7 ans avec qui chaque dimanche je regarde un film. On appelle ça la séance du dimanche soir. Et puisque pendant les vacances vous aurez l'occasion de regarder des films en famille, je vous propose leur top 3 cinéma.
Moi, j'aime bien Princesse Mononoké parce qu'il y a beaucoup d'esprit et aussi parce que ça protège la nature.
On va en faire un petit Guillaume Meurice de cet enfant avec qui je suis heureux d'avoir partagé l'univers d'Hayao Miyazaki, parce que tout y est mieux que chez Disney et surtout, il n'y a pas de chanson à la con comme... Remerciez-moi d'avoir pourri votre soirée avec cette punitive ritournelle. Nous commençâmes par Totoro, auquel je leur fais soi-disant penser quand je dors. Ils prétendent même que je ronfle, alors que si je ronflais, je le saurais. Puis Nausicaa et ses omous qu'ils dessinèrent 100 fois. Chihiro, dont le joufflu visage me rappelle leur mère. Et enfin, Princesse Mononoké, que j'attendais de leur montrer, le pensant trop violent. Pas eux. J'aime partager avec eux mon tropisme nippon. Un jour, je leur parlerai de Yuki, cette femme que j'ai aimée à 20 ans et à qui je demandais après l'avoir embrassée, elle est à qui, hein, le Yuki? Elle est à qui, le gentil petit toutou? Elle me répondit, Thomas, what do you mean? Thomas, qu'est-ce que tu veux dire? Richard Gottener n'ayant manifestement pas eu au pays du soleil levant le succès qu'il méritait.
Moi, j'aime la guerre des boutons parce qu'en fait, les enfants, ils se font la guerre et c'est une guerre d'enfants. Et donc, ils essayent de trouver tous les moyens et tout ça pour se faire la guerre. Et leur menace, c'est d'enlever les boutons, donc c'est drôle. Et après, il y a leurs pantalons qui descendent et tout ça. Et parce qu'il y a aussi plein de blagues drôles.
Des blagues drôles, c'est sûr que ça les change de leur quotidien avec moi. Parmi les 5 adaptations du livre de Louis Pergaud, j'ai choisi celle de 1962 et son mythique « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». À l'époque, personne ne croyait dans ce film. Aucun producteur pour le financer, aucun distributeur pour le sortir. Résultat de l'entêtement d'Yves Robert et sa femme Danielle Delorme, le prix Jean Vigo, près de 10 millions d'entrées et un beau doigt d'honneur aux professionnels de la profession. Je l'ai montré à mes fils pour qu'ils intègrent bien une chose.
Que je te dise, moi, dans la ville, chef, c'est celui qui a le plus grand zizi, puis c'est tout.
Je vais donc rester le chef encore quelques années.
Nous, on aime beaucoup Cyrano de Bergerac, parce que c'est poétique et...
Et parce que j'aime bien la blague à la fin de l'envoi, je touche.
À la fin de l'envoi, je touche, que nous avons depuis décliné en « à la fin des devoirs, je me douche » ou « à la fin du repas, je me couche ». Et pourtant, je n'étais pas très sûr de mon coup lorsque je leur ai montré Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau. Alors, après 20 minutes, je leur ai demandé « ça vous plaît ?» Ils m'ont répondu « c'est un guerrier, c'est un poète ». On aime bien les guerriers poètes, donc on a continué. Je me souviendrai longtemps de leur réaction si différente. Gaston euphorique et fier de me dire « j'ai adoré ». Alfred partant pisser seul dans le noir en murmurant « c'est triste ». C'est très triste. Normal. Comme Cyrano avec Roxane, il n'ose pas déclarer sa flamme à celle qu'il aime. Mais chut, c'est un secret. Un secret qui aimerait bien prendre la bouche pour oreille. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de lui montrer ce film qui, contre toute attente, est devenu leur film préféré. Alors vous aussi, n'hésitez pas de temps en temps à leur montrer autre chose que Gulli et à partager des films que vous aimez ou qui vous ont marqué. Moi, j'adore ces soirées où je me la joue Monsieur Eddy avec deux cartoons de Tex Avery, un film avant lequel j'explique comment la grande course autour du monde est devenue un dessin animé et qui sont Black Edwards, Jack Lemmon, Tony Curtis. Et puis, j'adore les entendre hurler de rire quand la vieille Sapritch fait fuir Montand à la fin de La Folie des Grandeurs, crier « Mais c'est la Statue de la Liberté !» à la fin de La Planète des Singes. Et par-dessus tout, j'adore quand ils se blottissent contre moi, quand Sinoc dans les Goonies les effraie autant que moi à leur âge. Par ailleurs, je leur adresse toutes mes excuses parce que j'avais totalement oublié la scène du pédophile dans l'été de Kikujiro, de Takeshi Kitano. Pendant 40 ans, j'ai souffert du spleen du dimanche soir, cette mélancolie qui s'insinue doucement parce qu'il faudra le lendemain retourner au travail ou pire à l'école. Eh bien, grâce à eux, j'attends désormais avec impatience notre séance du dimanche. Et vous savez quoi ? À partir de ce soir, on va enchaîner 15 dimanches. Alors, vive les vacances et
vive le cinéma ! Ouais ! Bravo. Merci Thomas Croisière et les deux petits couillons qui étaient dans le studio, Gaston et Alfred avec la casquette de la croisière bien sûr. Merci les amis pour cette belle chronique. Avec Clément Viktorovitch, on aborde rapidement ce dernier thème, la rhétorique des retardataires. C'est celle des excuses dont on sait qu'elle n'a pas vraiment de valable, sauf aujourd'hui si vous deviez prendre le train bien sûr. La France est le seul pays au monde où les gens s'excusent d'être à l'heure, dit l'humoriste américain Sébastien Marx. Alors quelle excuse pour persuader l'autre qu'on a des raisons valables d'être en retard.
Quelle heure est-il ?
Non.
La sardine.
Bah si.
4h moins le quart.
Si on m'avait dit que je regretterais Alex Vizorek un jour.
La di 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 la petite souris.
Qui chante ?
Yari yari wapi pel 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 dans la chapelle.
Richard,
ah, c'est
ouais. Rédaction en chef Guillaume Meurice, oui, mais sûr. C'est pas hein, de la petite
on
bière. Sujet trouvé dans Marie-Claire, ça c'est moi, avec notre stagiaire, Céline Dubois. Alors, vous êtes balèze en excuse quand vous êtes en retard, alors, le roi de la rhétorique.
Mais c'est-à-dire que c'est par définition des excuses fallacieuses, c'est-à-dire que à l'exception de quelques fois où vraiment le ciel vous est tombé sur la tête, la seule excuse qui vaille, c'est désolé, j'ai merdé. C'est-à-dire que c'est ça la seule excuse quand on est en retard. Donc non, je suis pas très fort. Donc généralement, non. C'est ce que je dis.
Mmh. On emploie un mécanisme de répétition. C'est une bonne méthode, la répétition ou l'innovation.
Alors moi, j'ai eu une excuse une fois du temps où j'enseignais à l'université de Villetaneuse, une excuse merveilleuse d'un étudiant. Alors il faut bien se dire qu'on était au milieu du semestre, un milieu de semestre bien avancé. L'étudiant rentre dans la salle de TD avec une bonne heure de retard, c'est-à-dire pas quelques minutes, et il me dit « désolé, je me suis perdu ».
Il faut le dire avec aplomb en fait.
Ouais, ça a bien marché. Et il y a une deuxième excuse qu'on m'a sortie un jour, j'ai trouvé ça merveilleux. C'est quelqu'un qui m'envoie un texto très en retard en disant désolé, j'étais vraiment très à l'heure jusqu'à ce que je sois en retard.
Ça c'est mignon, il y a de la poésie.
Oui, ouais. Et puis c'est toujours vrai.
Voilà. Ça pourrait être l'objet d'une future chronique, comment les politiques justifient-ils leur retard. Et vous pourrez sans doute conseiller Emmanuel Macron pour le chantier de Notre-Dame, ça risque de lui servir, bien sûr. 17h55 et 30 secondes sur France Inter, peut-être que sur RTL aussi, mais là on est sur France Inter, et justement vous et y faites bien.
Et il vient de rentrer dans le studio, et il est dans un coin, il est prêt pour finir la semaine en beauté. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous nous chanter ?
Eh bien, information véridique, j'ai reçu un mail de l'organisation patronale qui a instauré la journée J'aime ma boîte, qui se tenait ce jeudi. Cher Frédéric Fromet, ce serait formidable si vous acceptiez de nous faire un clin d'œil dans le cadre de votre chronique pour souhaiter bonne fête Merde. Aux entreprises de France.
Aïe. Ok.
Ils parlent tous comme des start-upers, ils font des lunchs en one-to-one. Leur N plus 1 est un winner dans l'open space. Ils sont full-time si ce jargon est à la mode chez ces baltringues qui se la pètent. Bah faudrait peut-être casser les codes. Un boss qui l'ouvre, ce serait pas bête.
balance ta boîte. Même si tu parles comme un gland, je sais qu'au fond tu comprends. Balance ta boîte et tes process à zap. Balance ta boîte ou laisse-moi te chanter d'aller te faire en... Je fêterai pas ta journée. Continue seul à te branler. Tu veux pas qu'on t'appelle patron, tu préfères entrepreneur. Moi je préfère t'appeler du con, toi, ou n'importe quel manager. Et ouais, je parle de toi, c'est quoi ton problème? J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter d'aller te faire Ouais, je serais poli pour la radio. Je te traiterai seulement d'idiot. Balance ta boîte et ton esprit corporate. Tu sais très bien que t'abuses, tu fais semblant que ça t'amuse. Balance ta boîte. Balance ta boîte. Quand t'auras fini de driver la conf call du brainstorming, quand t'auras fini d'upgrader le benchmark du team building, n'oublie pas le débriefing, n'oublie pas le reporting et demande-toi dans le timing si ça serait pas du masturbing. Balance ta boîte. Je sais qu'au fond tu piges vite, même si tu parles comme une bite. Balance ta boîte, tes deadlines, tes feedbacks. Balance ta boîte.
Merci. Merci beaucoup Frédéric Fromet.
Et on salue Sophie de Menton, l'initiative donc de Balance.
Vous avez fait un joli clin d'œil, vous avez obtempéré, ben voilà. C'est mignon comme tout. Merci Frédéric Fromet. Et merci beaucoup à Clément Viktorovitch d'avoir passé cette heure avec nous. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les soirs de la semaine dans l'émission de Mouloud Achour qui s'appelle Clic sur Canal+. Hein, ça fait partie des trucs, heureusement, qui restent sur Canal+, on va
c'est
dire.
Vrai, ouais. Merci Monsieur Bolloré.
Avec les émissions d'Antoine, notamment, et Groland, qu'on recevra bientôt. Et puis, merci beaucoup à toute l'équipe, à Mélanie Bauer, merci Christine Gonzalez, merci Thomas Croisière et Guillaume Meurice à la coprésentation. Merci à notre équipe de programmateurs qui peuple joyeusement notre Open Space, Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson, épaulée par notre stagiaire Céline Dubois. Merci à Ramzi Assadi, notre associé à la production, aux blagues et au planning de notre auberge espagnole. Merci à Clément Nougui à la réalisation cette semaine et à la technique. Aujourd'hui, merci à Tiffany Battistel, Julien Dumont et Arthur Le Breton. Nous, on va se retrouver lundi avec le meilleur des émissions, car nous aurons le grand florilège d'être en congé.
Nous, on est en vacances, on est là pour se détendre.
Ouais, on est là pour prendre du plaisir. Merde.